Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Étienne Hoffmann, bonjour. Merci d'être venu nous parler de l'affaire Wilfried Renaud. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne et vous étiez déjà venu à Canal Académie nous parler de Benjamin Constant et du groupe de Copé il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous revenez pour une autre affaire, une affaire de justice, un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre pendant l'année 1817 et auquel vous avez dédié un livre publié aux éditions Slatkin à Genève, puisque vous venez de Suisse, un livre qui s'appelle « Une erreur judiciaire oubliée, l'affaire Wilfried Renaud ». C'est préfacé par Jean-Denis Bredin de l'Académie française. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous rappeler les faits ?
Oui, volontiers. C'est un fait divers, vous l'avez dit. Fait divers qui consiste dans un assassinat en mars 1817 d'une servante dans la campagne normande. Des assassinats, des affaires de ce genre, il y en a des dizaines, voire des centaines.
Pourquoi on s'intéresse à celle-ci en particulier ?
On ne s'y intéresse pas d'abord, c'est ça le bizarre. Un homme est arrêté, il s'appelle Wilfried Renaud, une enquête est faite, relativement sérieusement, et puis il est condamné à mort, alors qu'il l'a toujours nié, alors qu'il n'y a qu'un seul témoin, et encore ce témoin arrive très tard dans l'affaire, et puis... C'est un demeuré, on l'appelle le bêta dans son village. Ce qu'il raconte ne tient pas vraiment debout, pour dire franchement les choses. Mais le tribunal accepte ce témoignage et Wilfried Renaud est condamné à mort. Et puis, brusquement, en septembre, alors que le crime a eu lieu en mars, en septembre, un tout petit entrefilet dans un journal, le journal des dépens de l'époque, le présente comme ayant été autrefois un des septembriseurs. Un septembriseur, c'est ceux qui, en septembre 1792, ont massacré des personnes pendant la terreur sous la Révolution. Voilà ce qui court sur son compte. Finalement, une rumeur, il aurait été un septembriseur. Alors pourquoi est-ce que cela seul va déclencher l'affaire ? Eh bien parce que les parents du condamné vont porter plainte pour calomnie contre les journaux et les journalistes qui ont émis cette erreur. Il n'a jamais été septembriseur. Et à ce moment-là, tout d'un coup, étant donné que c'est un procès contre les journalistes, les journaux vont en parler et Wilfried Renaud commence à être défendu par des avocats parce qu'en plus de ce procès en calomnie, il a recouru contre la décision du premier tribunal qu'il avait condamné à mort. Et puis, il va même faire encore plus, un troisième procès, contre le témoin qu'il avait soi-disant reconnu. Donc, voyez qu'il y a trois procès qui sont en cours et la presse s'en empare, commence à en parler beaucoup. Et c'est ça qu'on peut appeler l'affaire Renaud.
À partir de quel moment on parle véritablement d'affaire ? À partir du début, il s'écoule combien de temps ?
Alors, je pense que c'est à partir d'octobre, novembre. Cela fait depuis août, c'est donc le moment où il était condamné à mort. Ensuite, l'affaire se déclenche en septembre. Elle dure pendant l'hiver, octobre, novembre surtout. Puis ensuite, chaque fois qu'il y a un nouveau procès, puisqu'il a fait appel, puisqu'il y a un nouveau procès en calomnie contre les journaux, contre le témoin Ménil, chaque fois, ou presque, il perd. Si bien que ceux qui veulent sa perte sont absolument persuadés qu'il est coupable. Il doit être coupable, puisqu'autant de tribunaux, autant de juges ne lui donnent jamais raison. Alors vous imaginez la difficulté des avocats, il en a trois, puisqu'il y a trois procès. Vous imaginez la difficulté des avocats qui n'arrivent pas à faire comprendre qu'il y a en fait une erreur judiciaire, qu'il est innocent cet homme. Mais on dit, mais il ne peut pas être innocent, puisqu'il y a autant de tribunaux qui l'ont chaque fois débouté, comme on dit dans le jargon judiciaire. Il a été débouté, donc il est forcément coupable. Et c'est alors que Benjamin Constant intervient.
Voilà, élément important de l'affaire, comment Benjamin Constant vient-il à s'intéresser à l'affaire ? Est-ce qu'il étudie chaque affaire minutieusement de façon à sélectionner celle pour laquelle il va s'engager? Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas une autre?
Pourquoi celle-ci? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a consacré 3 brochures et plusieurs articles dans la presse. Quantitativement, c'est pas beaucoup. Quantitativement, cela représente près d'une centaine de pages.
Mais il mène l'enquête.
Mais justement, d'abord, qui est-ce qui le sollicite? Et là, il y a un mystère. Il y a un mystère qui n'est pas tout à fait résolu. Personnellement, à travers ce livre, je pense que j'ai pu montrer que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on était venu le chercher. Pourquoi vient-on le chercher? Parce que c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est capable de ranimer l'intérêt du public sur une affaire qui peut progressivement s'étouffer. Parce que il faut bien imaginer que les médias de l'époque, les journaux de l'époque, ne traitent pas que de l'affaire Regnault. Finalement, l'affaire Regnault, elle occupe très peu de place dans la presse de l'époque. Il y a d'autres affaires scandaleuses, des procès terribles. Il y a, assez bien connu, parce qu'il était bien documenté, l'affaire Fualdès. L'affaire Fualdès remplit des pages et des pages. Il y a des volumes entiers qui ont été écrits sur le moment même qui se trouvent être exactement à la même époque, 1817-1818. Il y a quantité d'autres procès de presse en particulier qui occupent le devant de la scène. Et la crainte des avocats et la crainte surtout de Regnault qui jouait sa tête, c'était que l'opinion se lasse et que finalement, s'il n'y avait plus la pluie de la presse, eh bien, la sentence était exécutoire et il risquait de passer à la guillotine. Donc il fallait trouver un homme qui avait suffisamment d'autorité et de poids auprès du public. Et c'est Constant qui a été trouvé, qui a accepté, alors qu'il est dans une période où il est particulièrement chargé par quantité de travaux. Et c'est assez admirable de voir que, un, il a accepté, deux, il l'a fait extrêmement vite, il a travaillé pratiquement en une semaine, 8 jours, pour traiter un dossier considérable, parce que, comme vous l'avez suggéré, il reprend l'enquête minutieusement, il se fait livrer toutes les pièces du procès qui ont dû être considérables. Malheureusement, elles ont disparu depuis lors, mais elles ont dû être considérables et il le lit tout. On a de la correspondance qui nous montre comment il travaille et il travaille vraiment dans le détail. Une fois, on m'a demandé comment est-ce que vous verriez cette activité de Benjamin Constant autour de cette affaire. J'ai dit, il se transforme en Sherlock Holmes. C'est le Sherlock Holmes de l'affaire Regnault. Et c'est pas tout faux, parce que comme Sherlock Holmes, il se met à distance. Sherlock Holmes, il résout beaucoup d'affaires depuis chez lui avec son ami Watson. Mais Constant dit, j'ai résolu cette affaire depuis mon bureau, depuis chez moi, parce que j'avais tous les éléments et tous ces éléments me montraient que Wilfried Regnault ne pouvait pas être coupable.
Et pourtant, Wilfried Regnault n'est pas forcément apprécié par l'opinion publique. Il a une mauvaise réputation.
Il a une très mauvaise réputation.
Pouvez-vous parler de sa personnalité?
Il a une très mauvaise réputation. J'ai évoqué cette rumeur de septembriseur tout à l'heure. Et probablement, parce que là, on manque d'éléments. C'est un homme qui a quitté sa Normandie très jeune, probablement vers 16-17 ans, pour aller à Paris, faire un apprentissage de marchand de bougies, puis d'épicier, puis il est resté à Paris et il y a eu la Révolution. Et quand il est revenu dans son village natal, il est probable, je dis bien il est probable parce qu'on n'en sait rien, qu'il ait eu une attitude un peu de celui qui avait voyagé, de celui qui avait connu Paris, qui avait vu la Révolution. Et peut-être qu'il en mettait un peu plein la vue, pour parler vulgairement, à ces villageois qui l'ont pris en grippe. Ça, c'est certain. Ils l'ont pris en grippe et de là peut-être cette réputation d'avoir trempé dans des affaires louches sous la Révolution, de s'être enrichi sous la Révolution, non seulement d'avoir été un meurtrier, mais de s'être enrichi. Mais lui a écrit son autobiographie que j'ai retrouvée. Et dans cette autobiographie, écrite d'une manière assez singulière, parce que vous imaginez qu'il n'avait pas été à l'école, mais comme épicier, il avait certainement une certaine conversation, il avait peut-être connu quelques clients du beau monde, et il savait sans doute s'exprimer, ça c'est certain. Il écrit dans une orthographe et une grammaire assez déconcertantes, mais au moins il a un vocabulaire, il a une certaine rhétorique, un certain souffle, et il s'exprime finalement pas si mal. Et dans son autobiographie, alors on apprend tout le contraire de ce que la rumeur a propagé et a propagé jusqu'à nos jours. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'il existe toute une tradition locale en Normandie qui a perduré tout au long du XIXe siècle et même du XXe siècle, parce que les seuls ouvrages, articles qui parlent de cette affaire sont des ouvrages et des articles que l'on trouve pour autant qu'on se déplace en Normandie. Vous ne les trouvez pas à Paris, vous ne les trouvez pas dans les bibliothèques parisiennes. J'ai dû aller sur place à Évreux, et c'est dans les archives d'Évreux que j'ai vu qu'on avait quand même écrit sur cette affaire, que je n'étais pas le premier. Mais comment avait-on écrit sur cette affaire ? En vilipendant complètement ce pauvre personnage, en disant « Oui, peut-être bien, on ne sait pas s'il était vraiment coupable de cet assassinat, mais c'était un mauvais garçon, et il a bien mérité d'être condamné à mort. » Comme si, parce qu'on était mauvais garçon, on pouvait être condamné à mort. Or, l'autobiographie de Regnault montre qu'il n'était pas si mauvais garçon que cela. Vous me diriez que, évidemment, c'est lui qui l'écrit, donc il a tendance à se montrer sous le plus beau jour, c'est vrai. Mais il y a un ton de sincérité. Il ne faut pas oublier qu'il écrit ça quand il est en prison et que, d'une minute à l'autre, il peut être emmené sur la place d'Évreux pour être guillotiné. Donc, c'est peut-être pas le moment de pavoiser. On peut donc penser que c'est pas seulement une autobiographie, mais plutôt une confession. Et il ne confesse jamais qu'il a tué quelqu'un. Il ne parle pas de l'assassinat, mais il démontre que son existence est l'existence d'un honnête homme, tout à fait honnête, avec beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, ses amis viendront témoigner dans les procès dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceux qu'il avait connus à Paris viendront dire « Mais non, c'est pas du tout celui que vous pensez, c'est un homme tout à fait honnête. »
Donc une personnalité forte et des gens forts autour de lui, puisqu'il y a Benjamin Constant, mais il y a également Odilon Barrault, qui est avocat et qui est tout jeune.
Oui, c'est pratiquement...
un de ses avocats, puisque vous disiez qu'ils sont trois.
C'est peut-être le principal, puisque Odilon Barrault va le défendre dans deux procès différents.
Est-ce qu'il est bon dans sa fonction ? Est-ce qu'il va véritablement l'aider ?
Je crois. Alors ça, je crois, j'en suis certain, parce que Odilon Barrault a justement cette fougue de la jeunesse. Je crois qu'il a 26 ans. Il vient de débuter et il est avocat à la Cour de cassation, donc il est avocat tout en haut de la hiérarchie des tribunaux. Et il multiplie d'abord les mémoires. Il écrira deux mémoires, qui sont des brochures en fait, pour raconter les faits et démontrer déjà avant Benjamin Constant que Wilfried Regnault ne pouvait pas physiquement être coupable. Il n'avait pas d'alibi au sens où quelqu'un pouvait dire « Non, 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 il était là, chez moi, au moment du crime. » Personne ne pouvait témoigner de cela. Mais quand on reconstitue, minute par minute, les faits cette journée-là, on voit bien qu'il ne pouvait tout simplement pas être coupable. Et ça, Odilon Barrault l'avait déjà démontré. Mais Odilon Barrault n'a pas, si j'ose dire, une écoute fantastique parce qu'il est encore peu connu, il est encore très jeune. Et certes, il a quelques amis bien placés dans la bonne société parisienne, mais ça ne suffit pas à dynamiser une opinion publique. C'est pour ça, je pense, que sinon lui, du moins des gens proches de lui, lui ont soufflé à l'oreille, il faudrait qu'un Benjamin Constant, si nous pouvions avoir un Benjamin Constant, pour cette affaire, ce serait merveilleux. Ici, j'imagine que les choses ont dû se passer, parce que je n'ai pas trouvé les documents attestant cela.
Quand est-ce que l'affaire prend une dimension sociale, où vraiment l'opinion publique se sent concernée, très intéressée, ou même Balzac s'en sert ?
Balzac s'en servira plus tard. Quand lui-même viendra au secours d'un condamné à mort, malheureusement pour le Balzac, le condamné en question était vraiment coupable. Donc là, il n'a pas eu la chance de Constant avant. Mais Balzac rappelle, à l'occasion de cette affaire, il rappelle l'affaire Regnault et que Constant était intervenu. Et lui-même veut faire la même chose. De même qu'au moment où Constant a défendu Regnault, on l'a comparé à Voltaire défendant Calas. Donc il y a des parallèles qui sont toujours mis en avant, souligné, que ce soit pour critiquer Benjamin Constant ou au contraire pour le louer. Ceux qui le critiquaient disaient « Oui, vous voulez faire comme Voltaire, vous êtes jaloux de Voltaire, vous voulez faire comme Voltaire. » Et puis ceux qui appréciaient son geste et son rôle disaient « Voyez, comme Voltaire, en effet, il vient au secours des innocents. » Alors, le côté social, Wilfried Regnault n'est pas tout en bas de l'échelle sociale. Il appartient à ce monde des petits moyens propriétaires terriens et il devait posséder des biens, comme on dit, qui ont dû fondre comme neige au soleil à cause des différents procès, pour payer les avocats, pour payer les procédures, parce que tout à l'heure je vous disais, il est toujours débouté, ou presque toujours, et chaque fois, le procès se termine, les frais sont à la charge de l'accusé. Donc il a dû perdre une bonne partie de son avoir à payer ça. Mais il n'est pas tout à fait en bas de l'échelle sociale. En revanche, ce qui est intéressant, travaillant sur l'affaire Regnault, c'est de pénétrer à cause de l'enquête, enquête refaite par Constant, dans ce monde villageois de 1817. Ce petit monde normand, on peut dire qu'on entend ces petites gens du village lorsqu'ils viennent témoigner, puisque la parole leur est donnée, le juge d'instruction leur dit, leur pose des questions, ils doivent répondre. Et ces réponses sont fournies aussi par Barreau, par Constant, dans leurs mémoires, dans leurs brochures. Et à ce moment-là, on a cette perception de cette vie d'autrefois qui souvent nous échappe quand on n'a pas cette parole des petites gens. Parce que ces petites gens n'en parlent pratiquement jamais, ils ne font jamais l'histoire. Ce sont ce qu'on appelle les oubliés de l'histoire. Et là, ils apparaissent. Et c'est intéressant de savoir que Constant, qu'on juge parfois surtout comme théoricien, comme intellectuel de très haut niveau, ne descendant jamais dans l'arène sociale, eh bien là, précisément, et c'est ça l'intérêt de l'affaire Regnault et de l'autre qui a suivi, dont je parlerai un tout petit peu, c'est de voir qu'il s'intéresse franchement, véritablement et avec émotion à ces petites gens.
Il n'y a pas que lui, il y a aussi Jean-Denis Bredin qui préface ce livre. Pourquoi Jean-Denis Bredin? Qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire pour lui-même donner envie au lecteur de lire votre livre?
Jean-Denis Bredin n'a pas à être présenté, mais peut-être faut-il rappeler qu'il est l'auteur de « L'affaire », ce magnifique livre qui n'a jamais été dépassé sur l'affaire Dreyfus. Et j'ai pensé, en travaillant sur l'affaire Regnault, du fait que, contrairement à Dreyfus et à quantité d'autres, Regnault a été complètement oublié. Jusque vers 1830 environ, on en parle encore, après, plus rien du tout, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pensé que Jean-Denis Bredin était le mieux placé peut-être pour rédiger une préface, étant donné d'une part son très grand talent pour apprécier ce genre de cas, ses compétences aussi, et de pouvoir aussi relier cette affaire avec l'affaire Dreyfus qu'il connaît si bien.
Il dit à la fin de sa préface, je cite, « Ainsi, de très nombreuses condamnations furent-elles prononcées en cette époque et dans beaucoup d'autres ?» Parce que le doute se confond aisément avec la certitude et qu'il vaudrait mieux, pour une société tranquille, condamner un innocent qu'innocenter un coupable. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Étienne Hoffmann ?
D'abord, c'était un projet, c'est toujours un projet, pour publier dans un volume des œuvres complètes de Benjamin Constant les textes que Constant a consacrés à cette affaire. En même temps que, j'y faisais allusion tout à l'heure, à une autre affaire qui s'appelle l'affaire L'Aîné, qui suit juste de quelques mois. Et là encore, Benjamin Constant va intervenir pour un malheureux condamné à mort, injustement, et il écrit de nouveau, au même personnage, lettre à Odilon Barreau, et de nouveau, il obtiendra gain de cause, c'est-à-dire que, de même que Regnault n'a pas été guillotiné, a reçu la grâce royale, de même, le serrurier L'Aîné va être également gracié. Il y a deux personnes, deux malheureux qui ont failli mourir injustement condamnés, qui lui doivent en quelque sorte la vie. Alors ces textes étaient prévus pour être publiés dans les œuvres complètes. Mais en faisant le travail dans le but de cette publication, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il serait dommage que l'on connaisse l'affaire Regnault uniquement à travers Constant, et qu'il fallait la traiter pour elle-même et laisser Benjamin Constant à la place qui est importante, bien entendu, étant donné ce que je viens de dire, puisqu'il a contribué à les sauver. Mais il n'est pas seul. Il fallait aussi rappeler le mérite des autres avocats, il fallait rappeler le mérite des journalistes de l'époque, qui ont noirci passablement de pages de papier pour dire « mais enfin, tout de même, on ne va pas guillotiner un innocent ». Et il fallait faire un livre sur l'affaire Regnault et non pas seulement sur Benjamin Constant défendant Regnault.
C'est donc une affaire qui pose de nombreuses questions liées à la justice, des questions auxquelles on laissera les juristes et les avocats répondre, et puis le système, très très difficile à trouver comme réponse. En tous les cas, nous avons été ravis de vous retrouver pour notre antenne et pour parler de cette affaire, Étienne Hoffmann. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lausanne et que vous publiez chez Slatkin le livre « Une erreur judiciaire oubliée, l'affaire Wilfried Regnault » avec une magnifique préface de Jean-Denis Brodin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et je vous rappelle que vous avez également été notre invité pour une émission sur Benjamin Constant et le groupe de Copé.